Le journal Loïc Barrière. Les électeurs tunisiens appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution qui accordera de vastes pouvoirs au chef de l'État. L'opposition a appelé au boycott de ce référendum. Nous écouterons l'analyse d'Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. 268 migrants secourus par SOS Méditerranée. Parmi les rescapés qui se trouvent à bord de l'Ocean Viking, on dénombre une centaine de mineurs non accompagnés. Une alerte à la canicule en Chine, des millions de personnes contraintes de rester confinées chez elles. Enfin, l'écrivain tunisien Habib Selmi était l'invité hier de Parcours, extrait dans ce journal. Un référendum crucial pour l'avenir de la Tunisie. 9,3 millions d'électeurs étaient appelés ce lundi à se prononcer sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Cette réforme accordera de vastes pouvoirs au chef de l'État. La majorité des partis d'opposition ont appelé au boycott en estimant que le texte va faire basculer le pays vers un régime ultra-présidentiel. Les explications d'Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Le président Kais Saied est toujours aux manettes puisque l'état de ses pouvoirs exceptionnels est prolongé, nonobstant donc la durée limitée de ceci selon l'article 80 de la Constitution, avec beaucoup de tensions autour d'un projet constitutionnel qui, in fine, ne fait que valider la direction qui est celle qu'a prise le président Kais Saied depuis son élection en 2019, à savoir une très forte hostilité à l'égard des partis politiques traditionnels, voire des institutions. Ce projet de constitution qui a été proposé par le juriste Sadok Belaïd remet en cause un certain nombre de fondamentaux, mais après tout des fondamentaux qui sont conformes au choix des Tunisiens, puisque c'est sur cette base qu'ils ont élu Kais Saied. Ce projet de constitution, s'il venait à être adopté, vraisemblablement il le sera, puisque une grande majorité quand même de sondages l'indique ainsi, tendrait à changer la nature même du régime tunisien, avec une déparlementarisation ou une remise en cause du régime parlementaire, héritage évidemment de la révolution de Jasmin de 2011, et puis remettant en cause la constitution de janvier-février 2014.
Quels ont été les arguments avancés par Kais Saied pour promouvoir cette constitution? C'est pour avoir les mains libres, pour avoir plus d'efficacité?
Le président Kais Saied, avec ce projet de constitution, même si il n'a pas pour objectif officiellement déclaré comme tel de prolonger le régime d'exception mis en place par le président tunisien depuis le 25 juillet 2021, continue quand même, malgré tout, de s'inscrire dans la même logique, suspension de l'Assemblée des représentants des peuples, limogeage du gouvernement d'Hichem Menchichi dans la foulée, dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, déclaration donc de l'état d'urgence, comme je l'évoquais, bref, à une volonté de la part du président Kais Saied de mettre au pas un Parlement qui lui était hostile, tout simplement parce que il y était en majorité ses adversaires politiques, qui du reste ont appelé à boycotter ce référendum, en l'occurrence les Nadaoui, même si le nombre de députés n'a cessé de diminuer depuis 2011, passant de 89 députés en 2011 à 52 aujourd'hui. Mais évidemment, on se souvient qu'il y a une guerre un peu picrocoline entre le président du parti, Ennahda, qui est également le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, et le président de la République. D'une certaine façon, avec ce projet de constitution, s'il venait à être adopté, confirmerait la prégnance de la présidence de la République, Carthage, aux dépens de deux institutions qui pourtant étaient l'héritière ou le legs de la révolution de Jasmin, à savoir la triangulation du pouvoir entre la primature, donc au palais de la Casbah, l'Assemblée des représentants du peuple au Bardo et la présidence à Carthage. Le président Kais Saied ne fait qu'appliquer sa volonté de passer d'une démocratie indirecte ou d'une démocratie parlementaire à une démocratie directe. On se souvient qu'un des enjeux ou un des arguments de sa campagne en 2019 était de s'appuyer sur le modèle de la Jamaïa arabe libyenne pour appeler à changer les institutions pour avoir une démocratie qui, selon le président tunisien, serait plus directe entre les citoyens tunisiens et lui-même.
Selon le juriste Sadok Belaïd, ce texte pourrait ouvrir la voie à un régime dictatorial. C'est la crainte partagée par l'opposition tunisienne qui appelle à boycotter ce référendum.
Alors oui, il y a effectivement ce risque. Il y a surtout un risque que les partis traditionnels, qui restent encore une fois s'inscrivant dans une légitimité électorale, car si Kais Saïd a bien été élu président en 2019, il n'en demeure pas moins que le parti majoritaire reste le parti Ennahda. Il y a un hiatus entre la volonté de ce président de s'arrimer dans une logique d'un pouvoir uninominal autour de sa personne, et bien sûr l'aspiration des Tunisiens à vouloir des contre-pouvoirs avec la mise en place d'une assemblée plus pluraliste, avec la mise en place d'instances de régulation. Je rappelle que le président Kais Saïd a dissous le Conseil supérieur de la magistrature, remettant au pas un certain nombre de magistrats, et que bien évidemment, avec les quelques 68 décrets-lois qui ont été mis en place par le président depuis la dissolution donc du Parlement, on a effectivement le sentiment qu'on va de plus en plus, je ne dirais pas un régime dictatorial, mais en tout cas un régime hyper présidentialiste qui vise à marginaliser, pour ne pas dire à délégitimer, l'action du Parlement.
Le chiffre de la participation sera un élément important à regarder, en plus du pourcentage de oui et de non.
Oui, même si en Tunisie, contrairement à beaucoup d'États démocratiques, la participation n'est pas prise en compte, ou le taux d'abstention n'est pas pris en compte. Quel que soit le degré de rejet, de participation ou non, le projet sera quand même adopté, quelle que soit la participation, même si elle est infinitésimale.
Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et les Tunisiens de l'étranger votent pour le troisième jour consécutif en France. Plusieurs bureaux de vote sont ouverts exceptionnellement jusqu'à 22h ce soir. Entretien avec Shiraz Ayed, présidente de l'instance régionale pour les élections France 1. On l'écoute.
Aujourd'hui, 25 juillet 2022, le vote se prolonge jusqu'à 10h du soir. Donc jusqu'à 22h dans les centres suivants: l'ambassade de Tunisie à Paris, le consulat général de Tunisie, le consulat de Strasbourg, le consulat à Pantin, Dar Tounsi à Aubervilliers, le centre Bozaris au 36 rue Bozaris, Paris, la maison de Tunisie au 14e arrondissement.
Et je conseille les citoyens tunisiens résidant en France et partout à l'étranger de consulter le site tuensa.easy.tn pour vérifier l'adresse du bureau de vote. Donc consultez l'adresse, ils vont trouver exactement le bureau de vote pour pas perdre du temps, pour aller juste directement au bon bureau. Dans la région parisienne et partout dans le nord de la France, nous avons 52 centres de vote et donc nous avons 52 justement adresses. Il faut bien consulter l'adresse. Donc. Et pour terminer, nous mettons à votre disposition des numéros de téléphone: le 07 82 22 23 49. Le 07 82 22 23 49. Un deuxième numéro, le 07 88 55 71 02. 07 88 55 71 02. Une autre ligne est à votre disposition, le 01 53 70 69 12.
Shiraz Ayed, présidente de l'instance régionale pour les élections France 1. L'Ocean Viking a recueilli 73 migrants ce dimanche. Il s'agit de la troisième opération de sauvetage menée dans la journée en Méditerranée, ce qui porte à 268 le nombre de personnes secourues par le navire humanitaire de SOS Méditerranée. Parmi ces rescapés se trouvent plus de 100 mineurs non accompagnés, dont un bébé qui a seulement un an. La mort de 17 migrants haïtiens au large des Bahamas. 25 autres personnes ont été secourues en mer. Leur bateau aurait chaviré en raison d'une mer agitée. Malgré le bombardement par l'armée russe du port d'Odessa, samedi, l'Ukraine s'attend à reprendre ses premières exportations de céréales dès cette semaine. Un accord en ce sens a été conclu il y a quelques jours avec Moscou. Économie d'énergie oblige, le gouvernement français a décidé d'interdire les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. Un second décret va interdire aux magasins d'avoir leurs portes ouvertes alors que la climatisation ou le chauffage fonctionnent. En Chine, des dizaines de millions d'habitants sont appelés à rester chez eux. Plusieurs villes chinoises sont en alerte rouge canicule en raison de la vague de chaleur qui frappe le pays. La température a dépassé les 41 degrés dans les provinces de Zhejiang et Fujian. Enfin, l'invité de parcours dimanche était l'écrivain tunisien de langue arabe Habib Selmi, extrait de cette émission.
L'arabe, pour moi, c'est imposé. Pourquoi c'est imposé? Parce que déjà, j'écrivais en arabe. Je vous ai dit que lorsque j'étais au lycée, en première, et même en seconde, déjà j'écrivais des nouvelles. Et ces nouvelles sont publiées à la radio. Et quelques-unes ont été primées même. Donc, et quelques-unes ont été publiées aussi, dans une revue qui est éditée par la radio, la maison de la radio et la télévision tunisienne. Et c'était vraiment un honneur pour moi. Donc, forcément, je sais pas, automatiquement, j'ai continué en arabe parce qu'à cette époque-là, déjà, j'avais un grand but, c'est devenir un écrivain. Là, vraiment, ça devient clair. Pour devenir un écrivain, forcément, il faut continuer en arabe.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand Naguib Mahfouz a reçu le prix Nobel de littérature?
Ah, j'étais très content. J'étais très content, mais ça, je l'ai senti des années plus tard parce que j'étais déjà à Paris. Mahfouz, évidemment, j'étais très content. Pourquoi, je vais vous dire? Tout d'abord, un, j'aimais Mahfouz. Et deux, à cette époque-là, le roman arabe, malgré l'existence de Mahfouz, presque tous les intellectuels, ils disent que la littérature arabe, elle, essentiellement, repose sur la poésie. Que les Arabes sont des poètes beaucoup plus que des romanciers. Le roman, c'est quelque chose d'occidental, ça demande de la réflexion. Et nous, les Arabes, on adore la poésie. Donc, probablement, si quelqu'un il va avoir le prix Nobel, ça ne serait qu'un poète. C'était une idée très répandue et tout le monde y croyait. Il croit, y compris moi-même. Et on a été totalement bousculé par le prix Nobel Mahfouz.
Du coup, en 1988.
Du coup, donc, le monde arabe a basculé. On a commencé à s'intéresser au roman. À cette époque, vraiment, c'était, jusqu'à cette époque-là, on est fier lorsqu'on dit lorsqu'on est jeune, on est fier de dire que je suis poète. Romancier, oui. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivaient des romans aussi. On écrivait plutôt des nouvelles.
Naguib Mahfouz a ouvert la voie à d'autres écrivains.
Ah oui. Ah oui, qu'on le veuille ou non, mais à plusieurs niveaux. Parce que le roman arabe, à cette époque-là, c'était vraiment le début. Bien sûr, le roman arabe, il existait depuis 1913. On dit souvent que c'est Zeynep, le premier roman arabe, qui est considéré comme vraiment un roman, artistiquement parlant. C'était Zeynep, d'ailleurs un Égyptien aussi, qui l'a écrit. Il l'a écrit d'ailleurs en Suisse et en France. Il s'appelle Zeynep. Il y a quelques tentatives, bien sûr, les dits romancés, mais quand même, c'est Mahfouz, qu'on le veut ou non, qui a vraiment créé ce roman-là. Et d'ailleurs, créé pas dans le sens où il a ouvert la voie à d'autres écrivains avec ce prix Nobel qui a bouleversé totalement le monde arabe, d'autant plus qu'on ne s'attendait pas à ça, mais il l'a créé parce que lorsque Mahfouz il a commencé à écrire, à un certain moment, on se moquait un peu de lui. Oui, c'est le fonctionnaire du roman arabe. Il n'arrêtait pas d'écrire de romans, ça sert à rien, personne ne lisait ça, ce n'est pas important. C'est la poésie qui est importante, c'est Adonis, c'est le poète, c'est Mahmoud Derwish, vous voyez, ça, qui sont d'ailleurs des poètes, ça ne dit pas l'importance de ces... Je vous décris ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on se dit à cette époque-là. Alors que Mahfouz, c'est un vieux monsieur, d'autant plus que lui, il est un peu classique, hein. Donc il travaillait tout le temps, chaque année, presque il publie 2 ou 3 romans. Bon, certes, il était dans les programmes scolaires de tous les pays arabes. C'est grâce à ça que ses livres sont vendus. Il a tenu coup. Et en plus, il écrivait dans la presse pour vivre. Et puis, il avait des cinéastes qui étaient ses amis, dont Salah Boussif, qui lui demandaient d'écrire des scénarios. Mais à cette époque-là, Mahfouz, il était un peu délaissé. Du coup, donc, On a découvert un écrivain immense, puis on l'a reconnu, enfin, voilà, c'est un écrivain important. Et en plus, l'autre apport qu'a fait Mahfouz au roman, c'est pas ça uniquement. C'est quelque chose qui concernant le roman lui-même, l'écriture romanesque elle-même. Lorsque Mahfouz il a commencé à écrire, la langue arabe qu'on utilisait, elle était encore sacrée un peu. Elle sortait difficilement du domaine religieux. C'est-à-dire, c'est une langue un peu, comment dirais-je, pas précise. Elle est plutôt riche dans tout ce qui est vocabulaire religieux, coranique, tafsir et l'exégèse, tout ça c'est très fort. Mais quand même, elle est encore à l'écart de tout ce qui est modernité. Par exemple, le bus, le café, le comptoir, le canapé. Mahfouz, il a créé toute une terminologie pour ça.
Et moi, il a réinventé la langue arabe.
Oui, il a réinventé. Il partait évidemment du dialectal égyptien aussi. Il y a aussi, il cherchait certains mots qui se trouvaient dans certains dictionnaires vieux, dans de vieux dictionnaires, il leur donnait d'autres sens. Mais à mon avis, certes, c'est un grand écrivain, il a créé tout un monde, mais au-delà de ça, il a fait un travail considérable à propos de la langue. Il a créé une langue qui nomme le monde, qui nomme l'ici-bas et qui nomme le monde ici et maintenant. Or, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'écrivains qui faisaient ça. Et d'ailleurs, lui, il était conscient de ça. Une fois dans une interview, il parlait de ça. J'ai toujours pensé que c'est un homme qui a rendu un grand service au roman arabe, non seulement par la production, qui est immense, qui est très variée, qui a ouvert plusieurs voies, il a expérimenté plusieurs écoles, mais aussi par cette langue. On a arrêté cette langue tous. Après, on l'a changé, évidemment, pour qu'elle corresponde à notre époque. Après, le roman arabe a explosé.
L'écrivain tunisien de langue arabe Habib Selmi, il était l'invité de Parcours Dimanche, émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.